Point numéro 1, avis du conseil municipal sur le projet de programme local d'habitat présenté par Metz Métropole et Madame Kosik.
Monsieur le maire, chers collègues, notre territoire doit faire face à deux risques majeurs, la baisse de la démographie, moins 3,5% prévu par l'INSEE à l'horizon 2025, et le vieillissement de la population non compensé par l'arrivée de jeunes générations. Face à ces constats, deux attitudes sont possibles, le renoncement et le repli sur soi, ou la croyance en nos capacités d'initiative économique, culturelle, intellectuelle, source de développement de l'attractivité de notre territoire, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. C'est cette seconde stratégie que les élus de Metz Métropole ont choisie en votant le 13 décembre un projet de PLH ambitieux. Ce document, qui décline notre stratégie sur 6 ans, est porteur de 4 orientations, déclinées chacune en plan d'action. La première orientation, fixer et attirer les jeunes ménages et les familles sur notre territoire. Produire au moins 1 000 logements par an, dont 360 logements aidés. Rappelons que plus de 60% de nos concitoyens répondent aux critères d'accès au logement social. Cet objectif quantitatif devrait nous permettre d'accueillir 6 700 nouveaux habitants en 6 ans. C'est aussi faciliter le parcours résidentiel, poursuivre et actualiser le dispositif en faveur de l'accession sociale à la propriété. Deuxième orientation, répartir l'offre sociale et garantir la mixité. Vous savez que nous vivons dans une agglomération où 90% du logement social est réparti sur 3 communes. L'objectif est donc de territorialiser la production des 360 logements aidés, chacune des communes de Metz Métropole s'engageant à en produire. C'est également mieux la répartir et adapter l'offre aux besoins spécifiques des étudiants, des personnes handicapées, des personnes âgées. Troisième orientation, promouvoir l'habitat durable en encourageant la réhabilitation du parc privé et du parc public, en développant l'habitat intermédiaire, en sensibilisant les habitants aux bonnes pratiques. Le BBC, c'est bien, mais il faut adapter ses habitudes de vie. C'est également favoriser les écoquartiers. Dernière orientation, partager la politique de l'habitat en renforçant la politique communautaire en la matière, suivre les réalisations de nos engagements, assurer la cohérence avec le schéma de cohérence territoriale et mise en conformité des PLU. C'est parce que nous souhaitons que ces orientations ne soient pas que des incantations que nous vous proposons que la ville soit un acteur à part entière de cette stratégie. C'est pour nous, ville de Metz, l'engagement de produire 510 logements par an, dont 210 logements sociaux. Compte tenu de la programmation des différentes zones d'aménagement dans les 6 ans qui viennent, cet objectif quantitatif est réaliste. Ce sont en effet 6 546 logements qui seront construits dans les différentes zones, l'amphithéâtre, Charles Le Payen, les Coteaux de la Seille, Claudine Laubertin, les Sansonnets, De Vallières, Altadis, etc. Notre engagement pour réaliser ces objectifs, c'est de produire au moins, je dis bien au moins, 20% de logements sociaux dans tous ces programmes. La répartition équilibrée au sein de notre ville est aussi un objectif. Aujourd'hui, 6 quartiers messins sont en dessous des 20% et il nous appartiendra d'en tenir compte dans nos programmations. La ville de Metz entend utiliser les leviers nécessaires à la réalisation de ces enjeux visant un habitat diversifié, équilibré et durable. Ces outils sont la maîtrise du foncier. Aujourd'hui, 171 hectares sont disponibles pour l'habitat, soit un potentiel de 13 000 logements. Le choix de minorer le foncier est un des leviers pour une ville souhaitant maîtriser son habitat. L'exercice du droit de préemption qui peut être délégué à un bailleur public permettant la production de logements disséminés. La création de servitudes dans le PLU visant à prévoir des emplacements réservés et à favoriser la mixité, la lutte contre la vacance et l'habitat indigne, le programme d'intérêt général démarré en mars 2009 permet de prendre en compte la réhabilitation de 100 logements à ce jour. Le développement durable, nous expérimentons au coteau de la Seille, notamment grâce à la convention signée avec Sercal qui minore le coût du foncier pour les opérateurs obtenant la certification. Voilà, chers collègues, la stratégie que nous comptons mener au sein de Metz Métropole pour lutter contre un certain nombre de déséquilibres et accompagner le développement de notre territoire, car nous croyons en son attractivité. Nous vous proposons donc d'émettre un avis favorable. Je ferai mienne, pour terminer, la devise du guerrier Zoulou : si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Alors pourquoi reculer ?
Qui souhaite prendre la parole ? Alors, je vois le docteur Jacquat, monsieur Lebeau, monsieur Maréchal, c'est monsieur Thiel, monsieur Antoine et monsieur Lécadir. Eh bien, il y a monsieur Lebeau.
Et Thierry.
Pardon. Non, c'est madame Quillot, pardon.
Et Thierry Jean.
Oh, il y a monsieur Aldrin. Voilà, c'est riche. Et Thierry Jean. Très bien, bah écoutez, la nuit est à nous. Docteur, vous avez la parole.
Déjà que le conseil commence.
Oui, monsieur le maire, merci. Concernant donc cet avis qui nous est demandé pour ce programme local de l'habitat, tout d'abord deux constats. Un constat d'abord de continuité au point de vue des élus dans le cadre de Metz Métropole. François Grosdidier dans un premier temps, moi-même dans un deuxième temps, à nouveau donc François Grosdidier. Donc c'est bien que ce soient les mêmes qui s'occupent, je dirais, des mêmes dossiers, car le problème du logement est un problème extrêmement complexe. Autre chose, donc, dans cette continuité, dans les orientations stratégiques qui viennent à l'instant d'être développées par Madame Kosik, il faut satisfaire donc les demandes des postulants, surtout dans le domaine du parc social, c'est bien. Le parc social, et il y a ce qui n'est pas dans le parc social, entre les personnes qui ont déjà un logement ou celles qui viennent de l'extérieur et qui veulent un logement. Et puis, toujours dans cette continuité, on s'appuie sur le premier PLH. Le premier PLH, bon, on le corrige. On a essuyé les plâtres en son temps. Ce n'était pas évident pour le mettre en place. Mais je tiens à rappeler qu'en son temps, toutes les communes avaient été sensibilisées, donc individuellement. Cela avait pris du temps. Et j'ai pu constater qu'avec le temps, eh bien, finalement, on arrivait à un fruit. C'est que tout le monde jouait le jeu à présent concernant leur volonté, je dirais en fonction de leur population, de pouvoir en particulier donc construire des logements pour le parc social. Deuxième constat, ça c'est extrêmement important, le problème de la territorialisation. Eh bien, c'est le respect de la loi. Cela a été voté donc au niveau national et que ce soit appliqué. Parce que j'ai cru comprendre à un certain moment qu'on disait « on fait à Metz ». Non, à Metz, on applique la loi. Ensuite, donc, des remarques. En lisant donc les trois documents qui sont très bien faits, du problème des gens qui fuient Metz Métropole. Je tiens à dire que, et on voudrait qu'ils restent à Metz ou à Metz Métropole, que si la fiscalité continue à augmenter de façon extrêmement importante, les autres taxes, que ce soit à Metz ou Metz Métropole, les gens iront plus loin. Ça, c'est évident. Le problème des taxes a toujours été un problème de choix des gens dans notre pays. En lisant donc les documents, autre remarque, il y a un terme qui m'a choqué. C'est de celui de lutter contre le phénomène de vieillissement. Moi, j'aurais dit plutôt accompagner le phénomène de vieillissement. On a des logements donc adaptés à tous les âges de la vie, c'est ce qui est demandé maintenant, mais de lutter contre, on pourrait aller, je dirais, s'opposer au problème du déracinement, car dans notre pays, les gens ne veulent pas de déracinement. Et de tout temps, je me souviens, avec le pacte de Metz en son temps, de la construction, il y a plus de 25 ans, à Manvillé, de logements seniors pour les seniors, avec une continuité, on retrouve maintenant au niveau de Metz Habitat, donc territoire. Ce que je voudrais aussi, monsieur le maire, à plusieurs reprises, vous avez insisté, je je sais que vous faites passer le message, en respect aussi, je dis en concordance avec le Grenelle de l'environnement, concernant le fait du développement, ou plutôt de vous opposer plutôt au fait que les gens voudraient tous un jardin. N'oublions pas que nous sommes dans un pays où les gens le souhaitent, alors que l'on favorise plus, je dirais, les constructions de maisons individuelles en ligne, comme on les appelle, oui, mais de grâce de dire, et là-dessus, je voudrais que vous nous assuriez, non mais, à un moment, hein, vous aviez parlé de densification à ce sujet-là, que des permis de construire ne seraient plus attribués avec des maisons comportant un jardin, c'était tout au début du mandat.
C'est ce que j'ai dit.
C'est fini.
Non, je répondrai à votre inexactitude. Allez-y.
Alors, mais je préfère, et vous, j'en suis déjà tout content à l'avance. Ensuite,
quand vous me citez, faites attention quand même.
Mais monsieur le maire, ce n'est pas citer pour vous embêter, c'est citer vis-à-vis de la population de dire, de croyances, d'interprétations. Et je ne suis pas du tout là dans un esprit polémique, je fais des remarques. Et ici, notre rôle, c'est de demander des questions. Étant donné qu'à Metz Métropole, on ne siège plus, on a été viré, hein, d'accord. Donc par conséquent, il ne reste plus que comme chambre, je dirais, pour s'exprimer, c'est ici. Ensuite, donc, il y a le problème du parc des logements militaires. Parc des logements militaires, il y a le parc proprement dit de l'armée, la SNI, d'une part, qui risque de connaître, je dirais, de grosses baisses d'effectifs. Et d'autre part, il y a dans tout le parc HLM de notre ville, parc social, des logements qui sont réservés pour donc les militaires. Donc on va avoir des logements libres par les logements, je dirais, sociaux de l'armée, mais aussi par ceux qui ne dépendent pas de l'armée. Est-ce qu'une estimation a été faite sur ce point? Et indirectement, on arrive à la libération des emprises militaires et aussi des hospitalières qui peuvent entrer dans le cadre, je dirais, du logement de notre ville. Il y a un point, d'ailleurs, concernant Sainte-Croix, plus tard. Concernant les 20% dans tous les nouveaux programmes, de logements dans tous les nouveaux programmes, de logements sociaux dans tous les programmes. Ceci a été acté d'état du temps de Jean-Marie Rouge et vous-même, monsieur le maire, vous aviez approuvé en son temps ce fait et ceci a toujours été dit, a été fait, a été acté et on se réjouit donc que l'on continue. En rappelant quand même qu'à Metz, concernant donc le parc social se situe entre 27 et 28%. Par contre, remarque que je ferai, c'est de faire très attention, parce qu'il nous a été indiqué, et concernant Technopôle 2, il me semble que c'était au conseil municipal, qu'il y aurait un mariage entre, d'une part, des habitats et des entreprises. Il faut faire très attention au type d'entreprises qui peuvent exister. Je rappellerai que dans le cadre de la construction, des constructions qui ont eu lieu à Metz-Borny dans la ZFU Sébastopol, eh bien, on s'est opposé à l'unanimité en son temps à ce mélange-là, parce qu'il peut y avoir des entreprises qui, peut-être dans un premier temps, ne sont pas des entreprises provoquant des nuisances sonores, mais il y a un risque extrêmement donc important. Concernant toujours donc les logements très sociaux, vous en avez voulu en faire une pierre angulaire dans votre politique, il faut aussi prévoir un accompagnement social dans certains cas, car nous avons déjà eu des expériences à Metz de logements très sociaux pour certains types de populations, et il n'y a pas eu assez d'accompagnement. Vous citez aussi, dans les nouveaux logements qui doivent être construits, c'est bien précisé, hors structure. Les structures, donc, c'est les foyers-logements, c'est les EHPAD, c'est tout ce qui concerne le logement étudiant. Or, dans le logement étudiant, j'ai été extrêmement surpris par le chiffre, sauf si j'ai mal lu, d'une perte de 7000 étudiants, si j'ai bien lu, dans les années donc à venir. Je trouve ce chiffre extrêmement donc important. Nous savons que Metz est une fac de proximité, mais justement, depuis que nous sommes maintenant mariés avec Nancy, et dans le cadre de ce nouveau pôle étudiants, n'aurons-t-on pas par la suite plus d'étudiants venant de l'extérieur, donc nous perdrons une partie de ce facteur fac de proximité et nous aurons besoin de logements. En sachant, j'ai noté la remarque, qu'on disait, oui, les gens veulent des studios maintenant, les étudiants, et plus des chambres, c'est la demande, je crois qu'il faut y satisfaire, c'est la demande que l'on a, il y a des spécialistes à s'adonner par la suite. Il est vrai qu'il y a un problème de coût qui se pose dans ces cas-là. Concernant donc le problème des gens du voyage et de leur logement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse et les propositions. J'en profiterai pour faire un tout petit cavalier, monsieur le maire, pour vous demander pourquoi le terrain provisoire des gens du voyage de Sautramoueuse a été fermé si tôt. Et d'ailleurs, ce genre de problème pose toujours question. C'est pour cela que je partirai tout à l'heure. Je vais aller à Ars-sur-Moselle parce qu'il y a beaucoup de difficultés sur ce point. Je terminerai en disant qu'il y a le point que j'ai trouvé un petit peu, je dirais, pas assez étudié. C'est celui concernant les copropriétés fragiles et dégradées. C'est à la page 49. Alors, quand on dit on va mettre en place une cellule de veille, la cellule de veille concernant les quartiers sensibles, elle existait déjà. On avait une analyse extrêmement précise. Vous étiez là, monsieur le maire, quand on s'est occupé en son temps de la résidence de la Fontenotte, boulevard d'Alsace à Metz-Borny, mais il y a d'autres résidences, Bernadette et autres, et je me souviens que dans le cadre du GPV, mais aussi sur certains, on avait demandé à ce qu'une étude soit faite, d'autant que l'État donnait de l'argent. Vous citez aussi la prise de délégation des aides à la pierre et je dirais et qu'il allait y avoir une étude. Concernant cette délégation, l'étude, elle a déjà été faite. En son temps, vous aviez une fonctionnaire remarquable dans cette maison qui s'appelait Madame Régine Claudel, qui avait fait une étude et qui avait conclu, à l'époque, je dis bien, que ce n'était pas à nous de le faire. Mais je tenais quand même à rappeler. Et enfin, je dis vous parce que vous êtes le maire, en fait, c'est le président de Metz Métropole, mais vous êtes son représentant ici. Vous indiquez assurer la mise en cohérence du PLH avec le SCOTAM. Je dirais oui, mais ceci, il faudra quand même attendre les nouvelles intercommunalités. Là, ce n'est pas la peine de se précipiter, mais peut-être d'attendre 1 ou 2 ans, le temps qu'on ait la nouvelle carte géographique des intercommunalités. J'ai peut-être été un petit peu long, mais c'est un rapport, comme l'a dit Mme Kosik, qui nous engage pour 6 ans. On corrige les erreurs du passé, on avait essuyé les plâtres, on va de l'avant. Donc, je suis tout à fait donner un avis favorable donc à ce point. Et j'insiste bien, monsieur le maire, il n'y a pas d'attaque concernant le point, mais on veut des précisions et on veut que concernant le logement, il n'y ait aucune difficulté dans notre vie.
Merci, monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, je tiens à souligner la qualité des documents qui nous ont été transmis et à saluer le travail parce qu'il est remarquable. C'est une masse d'informations et le diagnostic est vraiment quelque chose de complet. Donc, les plus vives félicitations pour ceux qui ont réalisé le travail. Ce travail est explicite et permet de mettre en exergue un certain nombre de points d'amélioration sensibles. Comme il a été évoqué, il y a une concentration très très forte sur 3 villes qui englobe 92% de l'offre sociale répartie sur seulement 3 communes. Sachant que ces 3 communes recouvrent 75% des résidences principales. On voit le déséquilibre. Donc j'aspire à ce que demain, ce plan d'action rééquilibre les choses. Et il y a un paradoxe, c'est la volonté de la municipalité d'aller vers une densification plus forte de la ville de Metz. La densification de la ville de Metz n'était pas dans le projet communal. Et là où je suis surpris, c'est que souvent la densification détériore le cadre de vie des habitants et ils n'ont pas voté pour ça. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important à prendre en compte. L'autre élément, c'est le fait que les jeunes ménages, les couples monoparentaux quittent le territoire, Metz Métropole, et plus particulièrement la ville de Metz. Alors, je prendrai un exemple. J'ai rencontré, en revenant de Paris, un contrôleur qui avait entendu qu'on allait parler de ce point-là ce soir au conseil municipal. Et il m'a expliqué pourquoi il a quitté la ville de Metz. Premièrement, il voulait une maison individuelle. Plus de possibilité d'avoir une maison individuelle. Deuxième élément, sa petite maison individuelle de 94 mètres carrés, donc c'est un petit qui est modeste, il me dit que l'économie d'impôt local par rapport à la commune où il se met en deuxième couronne représente une mensualité de remboursement de son prêt. Votre politique fiscale d'augmentation chaque année des taxes locales d'habitation, de foncier, d'électricité, d'eau, détériore considérablement l'attractivité de la ville et fait fuir ses habitants. Et ça, c'est le plus compliqué, sans parler de ce que je pense que Patrick Thiel va parler, du manque d'emploi, qui est là. On ne voit rien venir. On a fait une agence, Metz Métropole Développement, on aspirait à ce qu'elle dynamise l'économie messine. Eh bien, on ne voit rien. 3 ans et toujours rien. Donc, ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point qui est quelque chose d'important, c'est l'habitat indigne. Aujourd'hui, à Metz, selon le rapport, il y a 1655 logements indignes, insalubres. Et il faut savoir que sur les 6 dernières années, Metz n'a pas été exemplaire, et Metz Métropole non plus, dans la réduction de ces logements insalubres par rapport à la Moselle. La Moselle a diminué de 20%, près de 20% les logements insalubres, Metz un peu moins de 10%. Et là, je demande de concentrer des moyens très importants. Parce que quand on voit la rue des Allemands, et là on est dans l'habitat privé pour la plupart, il faut concentrer des moyens très importants. Quand on voit l'état des logements sociaux publics à Bellecroix, on se dit que là également, il faut concentrer des moyens très importants. Alors, on regarde ensuite les moyens qui sont prévus dans ce plan d'action et on se rend compte que pour encourager la réhabilitation du parc public, il est prévu de consacrer 400 000 euros par an. C'est quoi 400 000 euros par an ? C'est une nuit blanche. Alors je me dis concrètement, c'est beaucoup.
Ça faisait longtemps.
Et c'est très peu. Et là, monsieur le maire, il faut faire des choix. Alors, on peut aussi parler de la réhabilitation du parc privé. 260 000 euros. C'est Metz Plage. C'est beaucoup et c'est très peu. En tout, Metz Métropole va consacrer 3 770 000 euros. C'est beaucoup, mais c'est très peu. Là aussi, on peut comparer à d'autres budgets. Et on va vite se rendre compte que l'investissement qui est consacré pour cette politique de logement, qui doit être quelque chose de prioritaire. Et je pense que là, il n'y a rien qui nous diffère. Je pense que cette priorité devrait être marquée de manière plus nette et plus réelle au niveau du montant investi. Et je trouve globalement que si c'est réellement une priorité communautaire, la communauté d'agglomération de Metz Métropole aurait dû mettre des moyens beaucoup plus conséquents, et notamment sur les deux points de l'amélioration de l'habitat indigne. Je vous remercie, monsieur le maire.
Merci. Monsieur Maréchal.
Nous commençons donc ce premier conseil municipal de l'année par l'examen de ce point consacré au logement. Cela montre au moins symboliquement toute l'importance que nous attachons à cette question. Je voudrais également souligner la qualité du diagnostic sans concession établi par ses rédacteurs. Ces constats sont tellement saisissants que parfois on peut se demander si on ne lit pas un extrait des mémoires de Nelson Mandela, tellement sont présents les notions de ségrégation et d'apartheid lorsqu'il s'agit notamment du logement social. Si à l'époque de l'apartheid, la population noire et métisse était interdite de résidence dans la plupart des villes, il faut encore constater malheureusement que le logement social est lui aussi frappé d'apartheid dans certaines villes et dans certains quartiers de Metz Métropole. Un logement pour tous et partout est une ambition qui a encore du mal à trouver un début d'application dans notre agglomération. Et je souhaiterais rappeler ici quelques éléments du diagnostic, rapidement. 60 000 ménages sont éligibles au logement social pour l'instant, parce que quand même, il y a des choses qui socialement vont faire que cette proportion va augmenter. Pourtant, celui-ci ne représente que 22 000 logements. 17 000 ménages sont en attente. Le PLH propose d'en produire 1560 et on n'est donc pas prêt de répondre aux besoins existants. Surtout lorsque le précédent PLH n'a pas atteint ses objectifs. Monsieur Jacquat se félicite de la continuité. J'aurais souhaité un peu plus de rupture. Ce déficit propre d'offres publiques, n'est pas malheureusement propre à notre agglomération. Et ce déficit d'offres publiques rend encore plus nuisible le poids du marché. Je cite, on assiste également aujourd'hui à une production qui se spécialise dangereusement dans le logement de standing ou à la vente des investisseurs écartant d'office les familles modestes. Ce n'est pas dans l'humanité que je lis cette phrase, mais bien dans le document d'orientation. Au vu de cette situation, je regrette vivement que Metz Métropole ne se soit pas donné un seul objectif, assurer le droit au logement pour tous sur l'ensemble du territoire. Au lieu de parler de cela, on parle d'assurer l'accession sociale à la propriété, en ignorant le constat d'échec des dispositifs précédents et l'absence notamment pour l'avenir de financement pérenne. Nous sommes dans une illusion dangereuse. D'ailleurs, s'agissant de l'accession à la propriété, le document constate la hausse de l'immobilier. À qui profite le crime ? Pas aux familles. Que cette hausse de l'immobilier donc conduit les classes populaires à s'éloigner de plus en plus du centre-ville et de la ville jusqu'à Mézières et au-delà, et pourtant contraints de venir encore y travailler. Là aussi, cela rappelle l'apartheid. Donc je vous fais grâce de cette d'une nouvelle citation où effectivement on rappelle que les couches populaires sont obligées de fuir la ville. La crise du logement, dont parlait déjà la Fondation de la Pépière, est donc bien réelle, y compris sur le territoire de Metz Métropole. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le budget des ménages, le logement représente près de 4% de ce budget. Et on ne peut pas évoquer la question du logement sans évoquer la question de la responsabilité de l'État. Excusez-moi, M. Jacquat, Mme Zimmermann, mais voilà. Là aussi, le document, malheureusement, ignore totalement les éléments structurants de la politique publique. Nous ne sommes pas dans une agglomération qui est coupée des réalités nationales. Nous sommes dans des choix politiques locaux contraints. L'aide publique au logement ne représente plus que 4% du PIB. L'aide publique au logement représentait 4% du PIB il y a 30 ans, à peine 2% aujourd'hui. Et l'État s'est totalement désengagé du financement de l'ANRU. Non seulement aujourd'hui il réduit son intervention, mais il la réoriente pour aider le logement spéculatif. CF la loi Cellier. Et en plus, l'État ne fait rien pour assumer sa responsabilité pour assurer le droit au logement. Donc, la question du logement, elle n'est pas une affaire technique, mais est avant tout une question politique de premier plan. Il faut la traiter comme un enjeu de choix de société. C'est un fait, le logement social est au cœur des inégalités. Le programme proposé par Metz Métropole, s'il contient un certain nombre de mesures positives, n'est pas à la hauteur de la crise du logement. Nous sommes à quelques semaines de la reprise des expulsions. Je suis en contact avec quelques familles qui sont concernées par ce problème-là. Et malheureusement, le document lui-même ne mentionne même pas la question de ces expulsions locatives. Le droit au logement pour tous appelle une mobilisation citoyenne à laquelle nous devons contribuer pour aller vers la construction d'un véritable service public de logement sur l'ensemble du territoire.
Merci, Monsieur Maréchal. Monsieur Thiel a demandé la parole. Monsieur Thiel.
Oui, Monsieur le maire et chers collègues, merci. Je dirais pour ma part, pour ne pas reprendre tout ce qui a été dit, que je trouve pour le moins qu'il y a quelques nuances dans la motion que vous nous présentez pour soutenir ce rapport et le rapport lui-même. Le rapport, en effet, fait un point extrêmement satisfaisant et on ne peut que partager l'ensemble du dispositif qui est prévu, partager la politique de l'habitat au sein de Metz Métropole, faire tout et tout mettre en œuvre pour inciter vers un habitat durable et répartir l'offre sociale dans le cadre de la mixité. Tout ceci va tout à fait dans le bon sens. Mais, Monsieur le maire, je ferai deux observations. La première, c'est que pour que le logement se développe, encore faut-il que l'emploi se développe. Et donc, que nous soyons dans une phase de démographie plutôt ascendante que descendante. Et donc, il importe que les pouvoirs publics, municipaux, locaux, métropolitains, mettent tout en œuvre pour la création de richesses, pour la création d'entreprises. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, après 3 ans d'exercice, c'est que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne voit rien venir de ce côté-là. Au contraire, un certain nombre d'initiatives sont de nature à mettre plutôt de l'entropie là où il y avait un peu d'ordre. Je veux dire que pendant longtemps, il faut veiller à ce que le commerce messin, notamment, puisse être prospère, parce que la prospérité du commerce messin fait la prospérité des centres-villes. Or, si je prends les nouvelles que nous avons apprises par la presse récemment, l'engagement d'un vaste programme sur Metz-Sud fait naître quelques inquiétudes, et des inquiétudes qui datent depuis très très longtemps, puisque ça faisait très très longtemps que la municipalité de Metz, en son temps, freinait ce dispositif pour préserver à la fois les emplois et l'attractivité du centre-ville. Deuxième exemple, c'est que, outre le fait qu'on ne voit rien venir, on entend, là aussi, des délocalisations qui peuvent, à terme, porter des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Je veux parler de la décolonisation, de la délocalisation de la FNAC, qui est sans doute un choix économique, structurel pour l'entreprise, mais qui, au terme des responsables politiques que nous sommes, doit nous interroger pour savoir si on ne va pas se priver d'une locomotive essentielle à la centralité, et notamment du centre Saint-Jacques, mais de l'ensemble du centre-ville, et si le déplacement vers la place de la République ne va pas poser des problèmes de concurrence à une autre entreprise qui s'appelle Virgin, et dont on sait très bien qu'il y a là aussi des réflexions. Donc je dirais, non seulement on ne voit pas de plus, mais on voit se dessiner plutôt des inquiétudes vers le moins. Donc la politique du logement, et telle que le rapport est précisé ici, est une excellente chose, et nous n'avons rien à en dire, au contraire à être très satisfaits du travail accompli et des orientations, mais en revanche nous avons quelques inquiétudes à ce niveau-là. Enfin, je prendrai le premier point, ce qui est vraiment axé comme étant l'élément essentiel, puisqu'il est cité en premier, attirer les jeunes ménages et les familles sur les territoires. Et Emmanuel Lebeau ne m'en voudra pas de réappuyer sur ce qu'il a dit, et le docteur Jacquat aussi d'ailleurs, à savoir qu'il y a 2 éléments dans ce que nous entendons qui militent à l'inverse. C'est que d'une part, la surfiscalité messine et dans une autre hypothèse de Metz Métropole pèse sur les jeunes ménages, et que lorsque vous les interrogez, ils vous diront qu'ils préfèrent effectivement ce que vous notez dans le rapport comme étant la première couronne, comme la première ou la deuxième couronne de l'agglomération messine. Et puis le deuxième facteur, c'est ce choix que vous avez fait, qui est un choix que l'on peut comprendre dans le cœur de ville, de la cité, à savoir la densification, évidemment. Quand on est avenue de Nancy, avenue Foch, ou dans le quartier des Îles ou ailleurs, la ville, elle vit de cette densité. En revanche, dans les quartiers messins, qui sont plus périphériques, comme la Grange-aux-Bois, comme Metz-Manie, comme les Hautes-Queuleux, etc., pourquoi priver les jeunes messins d'habiter à Metz alors qu'ils veulent faire un choix de résidence individuelle avec jardin? Parce qu'une famille, ça se compose aussi avec des enfants, et que les enfants ont envie d'avoir un espace privé où ils peuvent faire de la balançoire, s'amuser ou prendre un bain dans une piscine. Même gonflable. Donc, si vous voulez, il y a des choix sur lesquels qui sont des choix propres. Et je veux dire, avoir une politique trop dogmatique à nouveau à cet égard-là, autant on peut la comprendre sur certains quartiers, autant elle fait fuir, surtout en l'accumulant à l'augmentation des impôts et des taxes, elle fait fuir effectivement les jeunes ménages. Donc, excellent rapport, monsieur le maire, mais plutôt que de lire dans la motion, dans le rapport qui accompagne la motion, quelques formes, je dirais, de subtiles réserves par rapport au rapport, comme celui concernant ces logements habitat en bande, comme vous les appelez, ou ces logements intermédiaires à l'habitation principale résidentielle et unique. Eh bien, nous disons très bon rapport, mais il doit être accompagné d'une volonté et d'une politique volontariste de la ville afin que nous reprenions l'ascendance démographique qui fait tout.
Monsieur Antoine.
Oui, monsieur le maire. Ça, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a l'air, oui, oui. Écoutez, je voudrais également saluer cette motion très stratégique attendue par les habitants, par les élus, par les entreprises et par les bailleurs, de façon générale, dans l'agglomération. Alors néanmoins, mes collègues ont déjà soulevé un certain nombre de questions au travers de cet excellent rapport. Et moi, je commencerai par quelle est la marche qui reste à franchir pour parvenir à cet optimum que soulevait Mme Kosik. Parce que, de façon générale, et ce n'est peut-être pas la question ici, mais quelle est la véritable solidarité déjà des communes de l'agglomération? Aujourd'hui, on le voit dans le rapport, un certain nombre ne se sentent pas forcément concernés par le logement social. Et on le voit aujourd'hui, quand on propose des programmes, c'est toujours un petit peu difficile. Donc là, il y a déjà un premier point, je veux dire, au niveau de la communauté d'agglomération, pour répartir et modifier ce poids des trois agglomérations qui portent l'essentiel du logement social. Ensuite, parmi ces orientations prioritaires qui sont prévues par le rapport, il y a un certain nombre de points, et ces points ressurgissent dans les concertations qu'il y a aujourd'hui dans les quartiers, lorsqu'il y a des projets. Et ces problématiques de complémentarité du tissu de l'habitat lui-même n'apparaissent pas très ouvertement dans le rapport. C'est, en résumé, les problèmes corollaires de voirie, de stationnement, de circulation, les problèmes de transport en commun, l'adaptation des équipements et infrastructures socioculturelles, la préservation de la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Patrick Thiel, Emmanuel, le docteur Jacquat sur cette problématique, mais je souscris aussi au fait que, autant eu égard au coût du foncier, au problème de déplacement en ville, à l'hypercentre, on ne peut pas faire des résidences jardins en ville, mais que sur les couronnes messines des extrémités, attention à ne pas densifier, parce que j'ai les mêmes dans ma sphère, j'ai à peu près les mêmes remontées des gens qui risquent, et on l'avait déjà exprimé au Conseil, des gens qui risquent de partir un peu plus loin, voire au-delà de l'agglomération. Sur les aspects quantitatifs, moi, je proposerais une chose, monsieur le maire, c'est faire un peu comme font les entreprises, une sorte de plan stratégique du patrimoine messin, donc un plan stratégique à 6 ans, dans lequel vous pourrez intégrer ces chiffres que vous indiquez sur les moyennes annuelles, etc., et de façon à pouvoir débattre de ce point extrêmement important et de solidifier, je dirais, ce plan à 6 ans, qui, si on n'y porte pas suffisamment l'attention, risque rapidement de se diluer. Enfin, sur ces différents aspects, moi, je ne saurais trop que vous recommander donc à la fois d'écrire un vrai cadre stratégique avec des chiffres, des nombres annuels de la production, du logement social, des corollaires sur les transports en commun, etc. Moi, je vous dirais aussi, dans certaines villes françaises, et je citerai Lille, votre collègue de Lille a solidifié son PLH par une convention qu'elle a fait signer aux bailleurs sociaux, par exemple. Et donc, chacun s'engage. Voilà. Et ça permet aussi d'anticiper pour les entreprises, pour les sociétés, ça permet d'anticiper la stratégie à moyen et à long terme, plutôt que, je veux dire, de s'adapter au fil et à mesure des événements et de se faire concurrence avec les confrères bailleurs sociaux. C'est certainement aussi prévoir des concertations plus efficaces au niveau des comités de quartier. Bon, il y a des remontées, on le voit bien, et certainement qu'il faut accentuer cette concertation au niveau des comités de quartier. Et puis, je ne reviendrai pas sur un point qui nous chagrine tous, c'est celui de la fiscalité, qui peut faire fuir les candidats à l'habitat à Metz. Voilà quelques points que je souhaitais soulever sur ce très, très important point du Conseil aujourd'hui. Merci.
Merci. Alors, j'ai noté Madame Quillot.
Merci, Monsieur le maire, chers collègues. ça fonctionne. Oui, donc il y a eu pas mal d'interventions, donc je vais essayer de trier un peu ce que je voulais dire de ce qui n'a pas été dit. Donc, moi, je voulais dire que le plan local de l'habitat a été attendu impatiemment par les associations d'insertion par le logement, parce que c'est l'outil qu'ils vont pouvoir mobiliser pour faire leur travail quotidien de soutien en matière de logement et d'hébergement des ménages à faible revenu. Or, ma première remarque, c'était que les associations d'insertion par le logement n'ont pas été consultées pour l'élaboration de ce plan. Et c'est d'autant plus surprenant que donc les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont confrontés à des mesures récentes, une baisse considérable des crédits pour l'hébergement, une baisse qui a été annoncée et motivée par une série de mesures qui, d'après le secrétaire d'État au logement, vise à la facilitation de l'accès au logement. Donc voilà un premier regret. Comment un plan local de l'habitat peut prendre en compte la réalité des besoins si les associations concernées au premier chef n'ont pas été associées à son élaboration? Bon, malgré cette réserve, je souligne comme tout le monde la très bonne qualité du document. Et j'espère que les élus des communes à qui le terme logement social donne des boutons le liront attentivement. Parce que bon, j'ai été moi aussi à la communauté d'agglomération, à la commission cohésion sociale, et j'ai quand même été souvent désespérée. Alors, je voulais souligner qu'on a un bilan très détaillé de la situation. On a une analyse des motifs qui ont empêché les objectifs du premier plan local de l'habitat d'aboutir. Et ces motifs-là, ils me semblent encore bien présents à ce jour. On peut commencer par les lourdeurs administratives, l'augmentation des coûts de construction et du foncier. Mais surtout, je voulais insister, moi, sur les préjugés autour du logement social. Et je pense que c'est parce qu'il y a une grande méconnaissance d'éléments essentiels qui sont qu'il y a trois catégories de logements sociaux. Les PLS, qui est pour moi du logement social, qui n'en a que le nom et qui ne répond pas, en raison du coût important des loyers, aux besoins de la majorité des ménages qui cherchent du logement sur l'agglomération. Les PLUS qui ont, eux, un bon rapport qualité-prix et qui répondent aux besoins de la majorité des demandeurs. Et les PLAI, ce qu'on appelle le logement très social, qui, en raison du faible montant du loyer de sortie, peuvent répondre aux besoins de 30% de nos concitoyens qui ont des revenus extrêmement modestes. Et au regard des chiffres des bénéficiaires potentiels, je voulais souligner aussi que, d'après ce rapport, dans le précédent PLH, il a eu 14 logements très sociaux construits, c'est-à-dire 1,2% de la production totale. Alors que le logement plus, qui pouvait répondre à 65% des habitants de Metz Métropole, a représenté 40% de la production, 436 logements. Et la production des PLS, qui, je le répète, pour moi ne sont pas du logement à loyer modéré, a été de 645 logements, donc 50% de la production totale. Donc pour moi, bon, je voulais souligner que même s'il est très important pour des questions d'équilibre de population et de dynamisme économique de permettre aux ménages à revenus intermédiaires, la cible du PLS, de se loger, il est tout aussi important de permettre à des ménages modestes de ne pas consacrer 50% de leurs revenus, c'est souvent le cas actuellement, à financer leur logement. Et pour illustrer mes propos, je voulais dire que les structures caritatives, depuis 2 ans, ont vu les demandes d'aide pour payer des loyers et des charges d'énergie tripler en raison de ces coûts et malgré des interventions considérables aussi du Fonds de solidarité logement du département, qui a également augmenté ses crédits. Je ne reviendrai pas sur les chiffres concernant les demandes, puisque M. Maréchal en a parlé. Pour le document d'orientation, donc les propositions qui sont pertinentes, et je voulais souligner, moi, le tableau très intéressant qui reprend, d'une part, le nombre de logements que ce rapport préconise de construire, commune par commune, pour équilibrer et tenter de répondre aux besoins, les engagements pris à ce jour par chaque commune et les écarts entre ces chiffres. En effet, il y a 12 communes qui n'ont pas l'intention de construire du logement social, c'est ce qui est noté dans ce PLH, quelle que soit la catégorie de ce logement, alors que leurs objectifs se situent respectivement entre 2 et 20 logements sociaux. Donc 2 logements sociaux sur une petite commune, c'est quand même faisable, surtout si on fait du PLS, puisqu'on peut faire du PLS et remplir ses obligations. Enfin, eux, ils n'en ont pas, puisque dans le cas de l'ERSRU, ils ne sont pas concernés par les amendes. On voit aussi que 2 communes n'ont pas l'intention de construire pour des ménages à faible revenu, puisque eux, ils rempliront leurs obligations uniquement avec des opérations du type PLS. Pourtant, sur ces communes, bon, comme sur toutes celles de notre communauté d'agglomération, 2/3 de la population est éligible à un logement social et très social. Je voulais donner aussi quelques exemples dans l'actualité locale. sur une commune actuellement en déficit de logements sociaux et taxée au titre de l'article 55 de la loi SRU, un immeuble communal au centre-ville qui était en cours d'étude par une association pour y faire du logement social vient d'être mis sur le marché, au prix du marché bien sûr. Et puis je voulais parler aussi du mouvement actuellement qui amène à refuser très fortement l'implantation d'une aire d'accueil, enfin le projet d'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage, alors que dans le plan, on rappelle également les obligations de la création d'aires de grand passage.
Il ne faut pas passer le message à M. Jacquat qui va à la réunion, là. Voilà.
Je voulais aussi une question un petit peu globale pour revenir aux associations. Hier soir, 1063 personnes ont été hébergées en hôtel, que ce soit sur Metz ou sur l'agglomération, puisqu'il y a des familles qui sont hébergées dans les hôtels sur Ony, dans la zone industrielle, par le 115. Et donc, je pose la question, qu'est-ce qui se passera en termes de sécurité, par exemple, quand les associations ne pourront plus héberger, puisque, faute de logement, on héberge. Pour la motion que vous nous présentez, monsieur le maire, moi, je pensais que la ville de Metz donnerait l'exemple en matière d'accueil et de maintien des ménages modestes. Alors, pour moi, ce n'est pas le cas, puisque si vous avez finalement augmenté votre planification pour entrer dans les objectifs du PLH, vous étiez dans le document qu'on nous a donné en déficit de 750 logements, mais là, vous avez finalement proposé dans cette motion rattraper cette opération. Seulement, ce que vous proposez, c'est de faire compter dans cette production les opérations ce qui n'a pas été reconstruit dans le cadre des opérations de destruction sur Borny. Vous tirez donc un trait sur les 258 logements qui n'ont pas été reconstruits à ce jour en remplacement de ces logements démolis. Les 448 logements qui ont été démolis à Borny, eux, offraient des loyers comparables à du conventionnement très social. Et il y a également les logements qui vont être prochainement démolis à la Patrotte. Et on va davantage encore creuser le déficit de logements susceptibles d'accueillir des locataires très modestes. Donc, en conclusion, monsieur le maire, je voulais dire que je suis plutôt favorable à ce projet de PLH. Mais je voudrais qu'il ne soit pas un catalogue de bonnes intentions comme le précédent et qu'on ait des résultats tangibles, surtout dans les communes qui se disent volontaires, mais aussi dans celles qui s'en sentent encore exonérées. Et j'aurais souhaité que vos objectifs en matière de construction de PLAI sur Metz soient revus à la hausse au détriment des opérations de construction de PLS. Je vous remercie.
Merci, monsieur Toulouse.
Merci, monsieur le maire. Ça fonctionne impeccable. Pardon, merci monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais effectivement, comme tout le monde, remercier et féliciter les services de la qualité de ce document et de l'analyse qui est faite. Et moi, je retiens le chiffre de la production de logements qui est nécessaire à Metz aujourd'hui. Et je voudrais insister sur un fait ici, c'est qu'on a besoin, puisque tout le monde apparemment, opposition comme majorité, est d'accord, sur la nécessaire solidarité qu'on doit avoir ensemble pour défendre sur le terrain les implantations de logements, que ce soit logement social ou toute autre construction, parce que ce que je constate depuis quelques mois, c'est le langage ici qui est de dire on est pour le logement social, allons-y, construisons, il faut en faire, sur le terrain, que ce soit à Queuleu, que ce soit par hasard, par exemple, à Vallières ou à la Corchade, c'est de dire, oh là là, oui, mais pas ici. Et j'ai retenu, monsieur Antoine, ce que vous avez dit tout à l'heure, du logement, oui, du logement social, oui, mais j'ai bien entendu, pour monsieur Antoine, pas à Vallières, pour monsieur Thiel, pas à la Grange-au-Bois, pas au centre-ville. Alors je me demande où on va le faire, le logement social. Si, vous avez parlé de la Grange-au-Bois tout à l'heure, monsieur Thiel.
Laissez parler, s'il vous plaît, monsieur Toulouse.
On a aussi des petites maisons sociales à la,
monsieur Toulouse, continuez.
À la Grange-au-Bois. Moi, je voulais donc insister sur la nécessaire solidarité et sur la fin de ce double langage qui est ici, on affirme qu'il faut faire du logement social pour loger les personnes de conditions modestes, et sur le terrain, le langage inverse qui est de dire « Ah oui, vous avez raison de vous battre, surtout pas de logements sociaux chez vous, vous en avez bien suffisamment. » Merci.
Merci, monsieur Toulouse. Alors, j'ai noté monsieur Aldrin.
Social. Ah
oui. Merci.
Non, Denis.
Monsieur Aldrin a la parole, docteur, s'il vous plaît.
Merci, monsieur le maire.
Il n'est pas dermatologue.
Monsieur le maire, je me joins au satisfecit sur la qualité de ce rapport et je voudrais simplement faire trois observations sur notre ville. La première, c'est le lien qui existe évidemment entre politique de logement et politique d'urbanisme. Et M. Toulouse vient d'ailleurs d'aborder cette question, puisqu'il a indiqué que 570 logements doivent être produits par notre ville chaque année, ce qui est un chiffre important, à condition d'ailleurs qu'il y ait la croissance économique, la croissance démographique. J'y reviens pas. Mais il n'est pas interdit non plus d'avoir une politique de logement s'inscrivant dans une politique d'urbanisme cohérente et ambitieuse, et surtout réussie d'un point de vue architectural, parce que j'ai encore sous les yeux l'îlot B2 du quartier de l'Amphithéâtre, ces cubes qui sont franchement quand même pas très jolis, alors qu'on aurait pu imaginer à proximité du Pompidou une architecture beaucoup plus travaillée, avec des façades de verre plus épurées exactement, qui... quelque part reflète le centre Pompidou. Il ne faudrait pas qu'au quartier de l'Amphithéâtre, on soit obligé de contacter l'ANRU d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années.
Comme le quartier des Hauteries,
la deuxième observation concerne les quartiers à habitat social et plus particulièrement celui de la Patrotte. Je crois que sur la Patrotte, il y a deux enjeux. Le premier qui est immédiat et qui concerne les conditions de vie des habitants de ce quartier, à qui il est difficile d'expliquer que leur charge locative augmente quand, dans le même temps, effectivement, il y a toujours des problèmes d'ascenseur, des problèmes d'entretien des communs et, finalement, des conditions de vie assez difficiles. Et puis, il y a l'enjeu à plus long terme, dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Mais là, je crois qu'on ne pourra parler de mixité sociale à la Patrotte que le jour où il y aura véritablement des opérations d'accession sociale à la propriété. Et j'espère que ce sera quelque chose à inscrire dans le projet de rénovation urbaine. Enfin, troisième observation sur l'habitat durable. Bien sûr que toutes les ZAC nouvelles qui se construisent intègrent les normes environnementales, les bâtiments basse consommation, mais je dirais toutes les villes et toutes les agglomérations font comme ça. C'est la suite logique du Grenelle de l'environnement. Mais il y a des villes qui font mieux et qui font plus encore. Il y a des villes qui utilisent tous les dispositifs, notamment... gouvernementaux pour permettre à la fois la rénovation de logements pour les réductions de consommation d'énergie, mais également pour la construction de logements neufs. Et les villes peuvent aider par des exonérations de taxes foncières. Alors ça serait formidable à Metz, sauf qu'il faudrait changer un dogme de cette municipalité depuis votre arrivée, c'est-à-dire corriger cette politique qui est la vôtre, qui est d'augmentation de pression fiscale, pour à l'inverse proposer des exonérations de taxes foncières qui profiteraient à des jeunes ménages, qui profiteraient au développement des politiques environnementales et qui seraient de la nature à faire revenir, notamment les jeunes, les primo-accédants dans notre ville qui, comme le document l'indique, ont tendance à quitter notre ville de Metz. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Lécadier.
Oui, Monsieur le maire, chers collègues, Je voudrais tout d'abord, comme ça a été déjà fait, mais en tout cas saluer ce document, notamment sur le point numéro 1 qui est consacré plus particulièrement aux jeunes. Et je crois que c'est un point central pour différentes raisons, parce que malheureusement nous vivons dans un pays où la condition des jeunes se dégrade de plus en plus, qu'ils soient en formation ou qu'ils soient en emploi. Il est devenu très difficile de se loger et de se loger convenablement. Et je crois que ce qui se produit, désolé encore une fois de parler de ça, au plan national n'aide pas. On apprend que le chômage ne fait qu'augmenter, qu'aujourd'hui, y compris les jeunes formés en école d'ingénieurs, n'arrivent pas à trouver un emploi comme c'était il y a quelques années. Donc je crois que c'est une situation grave, inquiétante, et à laquelle il faut donner une réponse. Et mettre ce point-là comme prioritaire me semble tout à fait utile et intéressant. Et dans ce logement de jeunes, je souhaitais faire un zoom sur la question du logement étudiant. J'ai entendu dans votre bouche, Dr Jacquat, parler du logement étudiant, en tout cas des étudiants. Je me réjouis. J'aurais aimé... qu'en 2006, vous qui étiez chargé du logement, j'aurais aimé à l'époque que vous arriviez à convaincre le maire de l'époque de donner le fameux million qui manquait pour inscrire les 150 chambres dont on a besoin pour le logement étudiant. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir de la cohérence politique. À l'époque, vous nous avez sorti des chiffres farfelus, une étude qui ne correspondait à aucune réalité pour nous dire on n'a pas besoin de logements étudiants. Aujourd'hui, on a pris 4 ans de retard. heureusement que dans le cadre du plan campus, on aura ces fameuses 150 chambres, mais parce que ça fait appel aussi à une vision que vous aviez et que vous continuez à avoir, et permettez-moi de vous le dire, qui est en réalité de gérer, et sans aucune vision d'avenir sur ces questions-là. Vous n'avez jamais cherché à faire de cette ville une véritable ville universitaire. Vous n'avez jamais cherché à augmenter le nombre d'étudiants qui soient sur Metz et qui soient logés. Et la preuve, c'est que malheureusement, le pourcentage d'étudiants qui restent et qui sont logés sur Metz est largement inférieur par rapport à des villes comparables. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas offert à ces étudiants les conditions pour se loger, parce que aussi les logements qui existent aujourd'hui sont trop chers. Et donc cette question-là, il aurait fallu anticiper dessus. Aujourd'hui, avec le plan campus, le travail qui est fait avec Metz Métropole, on arrivera à répondre à cette demande. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est, mais j'imagine que mon collègue Thierry Jean va en parler, c'est la question de l'emploi. Je crois qu'il faut arrêter la démagogie. Il y a des projets structurants dans notre ville sur cette question. Thierry Jean le dira très bien. Et j'aurais aimé vous voir hier au Technopôle, où effectivement on a échangé avec les chefs d'entreprise, je ne vous ai pas vu, et où un certain nombre de choses ont été annoncées, notamment sur la question de la recherche et de la structuration de nos entreprises pour attirer des entreprises nouvelles que nous n'avons pas aujourd'hui. Enfin, monsieur Aldrin, vous vous découvrez architecte, c'est nouveau, puisque vous jugez que ce qui est proposé au quartier de l'amphithéâtre n'est pas joli. Bon, comme dirait l'autre, chacun ses goûts, mais en tout cas, vous êtes le premier à dire cela dans cette ville, mais vous dites tellement de choses, vous dites tellement de choses.
Vous pouvez laisser parler, s'il vous plaît, monsieur Lecadier.
Contradictoire et décousu que on se pose la question. Mais pourquoi pas? Et puis, on a compris, un quartier plus particulièrement vous intéresse depuis quelques mois. C'était pas le cas au début, mais pourquoi pas? Je crois que ce quartier a besoin d'attention. Il en a manqué, effectivement, depuis l'époque, en tout cas, de l'ancienne municipalité que vous avez soutenue. Et il en a manqué cruellement. Et heureusement que nous prenons des décisions structurantes, d'abord pour rénover ce quartier, qui en a largement besoin, et je crois qu'il y a un projet tout à fait ambitieux. Il y a aussi une notion sur la question des services publics. Je cite l'exemple de la future mairie de quartier. Il y a le grand projet ambitieux et tout à fait utile sur la question de la bibliothèque et du futur centre social, et ça c'est quand même structurant, et c'est un équipement qui manque dans le quartier. Enfin, si on veut parler de la question des impôts, il faut être un minimum crédible, je le dis, parce que vous soutenez un gouvernement qui a une politique fiscale tout à fait désastreuse, et aujourd'hui, sur la question du logement, On entend le gouvernement, des parlementaires, vouloir taxer les bénéfices sur la vente de la résidence principale, ce qui est tout à fait une belle connerie, permettez-moi de le dire aussi naïvement que ça.
Merci. Thierry Jean, dernier orateur inscrit. Monsieur Thierry Jean, s'il vous plaît.
Merci. Merci, monsieur le maire. Je viens de découvrir que j'ai le micro numéro 007. Donc, on n'a peut-être pas le droit de faire de la politique ici, mais apparemment, si j'en crois James Bond, j'ai d'autres droits. Alors, moi, je souhaitais m'exprimer sur ce sujet parce que je trouve que ce plan local l'habitat a trois qualités. En tout cas, la motion que nous proposons, parce qu'effectivement, elle apporte un complément qui me paraît important, a trois qualités. Ces trois qualités, c'est le volontarisme, d'une part. D'autre part, la réponse à une nécessité qui est de densifier notre habitat et nos espaces de vie. Et d'autre part, parce qu'elle prend en compte un contexte plus large que celui de l'agglomération, et notamment celui du SCOT. Alors, volontarisme, j'arriverai peut-être pas à me sentir zoulou, mais j'apprécie qu'on soit capable, lorsqu'on est élu, de poser des actes de foi et de dire à un moment donné qu'on croit au développement. Et le pari qui est celui de la croissance, c'est un pari qui est louable, et je crois qu'il faut qu'on s'y associe. Certes, l'État, excusez-moi, Madame Zimmermann, ne nous y aide pas, mais 12 000 personnes à peu près qui s'en vont l'année prochaine. Je suis désolé de mettre en cause l'État, je sais qu'on n'a pas le droit, mais sachez quand même que c'est un élément qui ne contribue pas à assurer la croissance démographique, mais malgré ça, il faut y croire. En matière de démographie, il y a plusieurs leviers. Les emplois publics en sont un, mais c'est effectivement, en tout cas dans ma philosophie, c'est surtout l'emploi privé. Alors, évidemment, on critique beaucoup, on ne voit rien venir. Alors, d'abord, en 3 ans, la première année c'était 2008. En 2008, j'ai rien trouvé déjà. Donc, en arrivant, j'ai pas trouvé de projet. Donc, effectivement, il a fallu en chercher. 2009, ça a été un peu une annus horribilis du point de vue économique. Puis 2010, il y a eu un certain nombre de projets. Et quand on fait le bilan, SPI installe son siège à Metz, Pacifica double ses effectifs, KPMG double les siens, Schneider Electric, Siemens, Arvato a des projets importants de développement. PM Carré commence à devenir visible et j'annoncerai d'ici, je l'ai dit hier en commission développement économique de l'agglo, j'annoncerai d'ici la fin du mois de février l'implantation d'un centre de recherche d'une entreprise européenne qui vient parce qu'il y a PM Carré à Metz. Et ensuite, il y aura Lafayette, et derrière Lafayette, il y aura le même type de choses qui va se produire. Donc, on ne voit rien venir. C'est une marque le fait de dire qu'on ne voit rien venir, c'est un petit peu une marque de cécité. Alors, le commerce, puisque le sujet est abordé, on est accusé de porter atteinte à la prospérité du commerce messin. Quelques mots, je vais essayer d'être rapide, mais pour dire qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus à l'échelle d'un espace territorial restreint qui est celui d'un centre-ville. On raisonne sur des agglomérations, voire sur des aires urbaines. Aujourd'hui, nous sommes en concurrence avec d'autres aires urbaines. Il n'y a plus de concurrence entre centre-ville et périphérie, puisque tout le monde va en périphérie. Tout le monde va en périphérie faire certains achats, et tout le monde est susceptible d'aller en centre-ville faire certains achats. La segmentation n'est pas la même pour toutes les couches de population, mais je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds au centre-ville ou de trouver quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur une zone périphérique. Hein, c'est simplement le partage des paniers qui évolue. Et puis, troisième donnée qu'il faut prendre en considération, on ne peut pas dire que ActiSud soit une zone qui soit un monument de l'urbanisme. Hein, on peut améliorer les choses, et le choix de ce projet a été motivé principalement par sa qualité architecturale. Alors je sais qu'il est de bon ton de dire qu'il ne faut pas développer ActiSud, qu'on a tout fait jadis pour que ça ne se développe pas, et les 4500 emplois qui sont sur la zone, ils ont bien du mérite, puisque ce sont des emplois non désirés. Hein, il y a les enfants non désirés. Maintenant, à Metz, on a les emplois non désirés, hein, puisqu'on traite tout ça par le mépris, alors qu'on a la chance d'avoir une zone commerciale qui est l'une des plus intéressantes de France. On a deux zones commerciales qui sont connues de tous les développeurs d'enseignes. La première, c'est l'hypercentre de Metz, et la deuxième, c'est ActiSud. Et ça, lorsqu'on a un atout, ne pas le valoriser, ce n'est pas de bonne politique. Puis je voudrais revenir aussi sur le frein qui a été apporté au développement d'ActiSud, parce que c'était effectivement le cas jadis. Eh bien, jadis, vous savez, il y a un opérateur de cinéma qui voulait s'installer sur le Technopôle, à côté de Cora, là où il y a aujourd'hui le Roi Merlin. Puis on lui a dit, non, vous ne vous rendez pas compte. Si vous venez là, vous allez faire du tort au centre-ville. Donc il n'est pas venu là, il s'est installé à Saint-Judas-lès-Metz, à un endroit où il y a un tout petit peu plus près du centre-ville que s'il était sur le Technopôle. Lorsqu'on a fait l'agglomération, c'était plus très grave que qu'il y ait police à Saint-Julien-les-Metz. Par contre, on s'est attaché à pas développer ActiSud. Et ça, cette politique-là, elle a permis le développement d'une zone au nord, à la lisière de l'agglomération. J'y reviendrai, mais le fait d'ignorer qu'en ne développant pas Actis Sud, on a développé la zone de semé-cours chez nos voisins qui peuvent nous narguer, qui pouvaient nous narguer avec des taux de taxes professionnelles de l'ordre de la moitié des nôtres, je ne crois pas que cela fût de bonne politique. En ce qui concerne la délocalisation de la FNAC, alors parler de délocalisation pour une enseigne qui envisage de faire 600 mètres, on est déjà... Là, on est dans les grands espaces. Hein. La FNAC de Metz souhaite rester et se développer au centre-ville de Metz. Bon, ceux que ça afflige, je le regrette, mais en soi, il n'y a pas de difficulté. Après ça, on a au centre-ville de Metz deux grosses locomotives. Les deux grosses locomotives, c'est le Saint-Jacques et les Galeries Lafayette. 13 millions de passages au Saint-Jacques par an, 2,5 millions, 2,7 millions par an aux Galeries Lafayette. Ce sont des endroits d'attractivité considérable. Alors, est-ce que le déménagement de la FNAC aux Galeries Lafayette ne va pas déséquilibrer le système? Alors, comme dans toute décision économique, ben, il y a toujours des opportunités et des menaces. Alors, la menace, certes, c'est que l'une des locomotives du centre-ville perde sa locomotive. L'opportunité, c'est que il y a des enseignes qui ont envie de venir à Metz et qui ne trouvent pas de surface. Alors vous allez me dire, il y a plein de commerces libres. Oui, mais si des gens, par exemple, il y a une enseigne que j'aimerais bien voir à Metz, moi, qui s'appelle Apple Store. Ben, Apple Store, si je leur dis, il y a des magasins libres rue de Paris, il y a des espaces libres rue Haute-Seille, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est tout. Bon, et il y a pas la place rue Serpenoise, il y a pas la place rue des Clercs. Ben, peut-être que un espace libre à la FNAC, ça constitue une opportunité. Bon, ensuite, on critique beaucoup Métis. Et on prend souvent comme alibi les commerçants, parce que les commerçants veulent pas de métis. Ben, vous savez, moi, j'ai rencontré, au cours des 15 derniers jours, j'ai rencontré tous ces gens-là, parce que c'est un dossier qui m'intéresse tout particulièrement. Et quand on me dit qu'on va s'installer au sous-sol de la République parce que métis, quelque part, je me dis, tiens, le monde du commerce qui s'élève contre métis, ça fait pas l'unanimité. Il y a aussi des gens... Et puis les gens qui dirigent ces enseignes-là sont aussi des commerçants, hein. Et peut-être de manière étonnante pour certains membres de l'opposition, ces gens-là font ce choix. Alors, on n'a pas aujourd'hui arrêté notre position parce que nous allons être, enfin la CDAC va être saisie d'une demande par la FNAC. Bon, il y a eu un débat juridique sur le fait faut-il ou pas une CDAC. Par prudence, ils décident de déposer un dossier. La position de la ville n'est pas arrêtée parce que je consulte, je rendrai compte au maire qui décidera de la position de la ville. Cela dit, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la FNAC déménagera. Si la CDAC s'y oppose, ils obtiendront gain de cause en CNAC dans les 6 mois qui suivront, en Commission nationale d'aménagement commercial, excusez-moi, dans les 6 mois qui suivront. Bon, est-ce qu'on mènera ce combat, est-ce qu'on ne le mènera pas? Je ne vous réponds pas aujourd'hui. Notre position, je le répète, n'est pas arrêtée. Alors, revenons au PLH, puisque c'était un cavalier en réponse à un cavalier, puisque l'économie est quelque chose d'important dans l'habitat, mais ne fait pas tout. En ce qui concerne la densification, je crois qu'il est aujourd'hui essentiel d'éviter la fuite vers la grande couronne. Moi, je veux bien que tout le monde veuille sa maison, mais est-ce que c'est raisonnable d'aller la construire à 25 km de son lieu de travail ou à 30 km de son lieu de travail? Est-ce que c'est raisonnable de consommer du foncier agricole? La position que nous défendons, nous, représentants de l'agglomération au sein du syndicat mixte qui élabore le schéma de cohérence territoriale, c'est qu'il n'est pas raisonnable de continuer à laisser tous les villages ruraux s'étendre, non pas pour développer leur activité naturelle qui reste l'agriculture, mais pour y faire des lotissements qui, soit dit en passant, recèlent à 20 ans des dangers énormes, parce que tout le monde s'installe en même temps, tout le monde fait des enfants en même temps, il faudra des écoles, ensuite on n'aura plus besoin d'écoles, par contre après il faudra des maisons de Dieu. Hein, la gestion de ces collectivités-là, elle n'est pas responsable. Oui, il n'y a pas de vieux, tu as raison. Mais donc, tout ça, c'est, donc du coup, Il faut que nous arrivions à nous densifier, et je souligne tout particulièrement la remarque que nous faisons, la remarque qui est faite dans la motion, à savoir qu'il faut investir dans la rénovation de l'habitat messin, de l'habitat de centre-ville. Il y a des espaces, on doit aussi se développer sur nous-mêmes, hein, c'est là qu'est aujourd'hui la vérité, parce que toute autre vérité est une atteinte majeure à l'environnement que connaîtront nos enfants et nos petits-enfants. Donc la prise en compte de l'amélioration de l'habitat urbain pour le rendre plus attractif, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Dernier point de cette deuxième partie, la mixité habitat-activité, c'est quelque chose à quoi nous adhérons, mais qui se trouve avoir été complètement lancé par l'ancienne équipe. Donc, cher docteur, pas à ce moment-là, mais il se trouve que je partage ce point de vue, mais faut pas dire tout et le contraire de tout. Je terminerai, je vous l'ai dit, parce que ce PLH, il prend en contact son environnement. Et je suis complètement effaré quand j'entends parler de fiscalité. Parce que nous prenions en compte le SCOT, j'y reviendrai pas, je viens de le dire et j'ai déjà été long, mais c'est quelque chose d'essentiel. Par contre, alors, je passe sur ceux qui disent qu'il faut plus de moyens et moins d'impôts. Bon, ça, il y en a toujours, ça fait partie du jeu. Par contre, effectivement, on paye plus d'impôts à Metz que dans le reste de l'agglo, et dans le reste de l'agglo, on paye plus d'impôts que dans des communes qui font partie de ces intercommunalités autonomes de type village gaulois. D'abord, la raison, oui, Stalheim, on paye plus d'impôts qu'à Stalheim, c'est vrai. N'empêche que ce sont les vœux les plus vus sur Internet. Pourquoi alors, je ne vais pas donner de leçon de morale. Je ne vais pas donner de leçon de morale du tout. Ce que je dis simplement,
Monsieur Thierry Jean,
c'est
la parole.
Que d'abord, en imposition cumulée, l'agglomération de Metz est une des mieux placées de France et reste une des mieux placées de France. Et la comparaison, il faut la faire avec ce qui est comparable. Comparer notre taux d'imposition au taux d'imposition de l'agglomération de Nancy. Ne comparez pas notre taux d'imposition avec une des communes de telle intercommunalité qui ignore le reste du monde. Alors pourquoi on paye plus d'impôts? D'abord parce que on a un certain nombre de charges de centralité qui sont évidentes. Et c'est comme ça, c'est une réalité. Et heureusement qu'il y a un opéra à Metz, heureusement qu'il y a l'Arsenal à Metz, heureusement qu'il y a Pompidou à Metz. Bon, et tout ça, qui le finance? Qui le finance principalement? Qui met 7 millions dans le fonctionnement de Pompidou? Hein, c'est pas, voilà, les piscines, hein, l'intercommunalité de Mézières qu'il faut, paraît-il, sauver, selon certains de nos opposants. Cette intercommunalité de Mézières, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de logement social. Et ils viennent nous donner, eux, des leçons de morale sur notre fiscalité. Bon, peut-être quelques-uns, mais ils viennent nous donner des leçons sur notre taux de fiscalité. Alors, il n'est pas
responsable. Merci de laisser terminer, Monsieur Thierry Jean, s'il vous plaît.
Il n'est pas responsable de critiquer la fiscalité messine, et lorsque l'on sait que les gens qui payent moins d'impôts peuvent en payer moins parce qu'ils bénéficient des impôts des Messins et des résidents de l'agglomération messine. Donc c'est un problème moral, politique, c'est un problème de justice fiscale avant d'être un problème politique. Voilà, j'en aurai terminé lorsque, en formulant simplement un vœu, celui d'un peu plus de cohérence dans les prises de position. Je vous remercie.
Merci. Alors, Madame Kosik, pour un certain nombre de précisions sur les questions qui ont été posées.
Oui, merci Monsieur le maire. Alors, je vais commencer à répondre à Denis Jacquat. J'aime bien répondre à Denis Jacquat, j'aime bien rassurer Denis Jacquat. Sur la continuité, on va plutôt quand même parler de forte accélération, hein, puisqu'on sait que la production a stagné entre 2005 et 2007. Avec les 900 logements, démolis, on s'est même retrouvé dans un différentiel négatif, ce qui explique d'ailleurs que cet élément a boosté finalement le prix de vente, et ce qui explique aussi qu'un certain nombre de familles, depuis maintenant une dizaine d'années, et de jeunes quittent notamment le territoire et l'agglomération. Sur les copropriétés, là aussi, je vous rassure, hein, il y a un travail de diagnostic très précis qui vient d'être terminé au niveau du GPB. Nous allons maintenant mettre en place un plan stratégique parce qu'il va nous falloir des moyens. Hein, on parlait tout à l'heure des moyens de réhabilitation. Je crois que c'est M. Aldrin qui parlait de la réhabilitation. Vous savez quand même, M. Aldrin, qu'aujourd'hui, l'État ne finance plus rien sur la réhabilitation, hein, puisque l'EPALULOS, qui était le dispositif financier qui permettait le financement de la réhabilitation, n'existe plus. Sur l'accession à la propriété, l'accession sociale, je crois qu'il n'y a pas de position dogmatique. Au contraire, il y a un certain réalisme, d'abord sur les moyens des personnes, parce que pour accéder à la propriété, effectivement, il y a un certain nombre de moyens. Et je rappelle ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, 60 à 65% des personnes habitant dans l'agglomération, c'est d'ailleurs la même proportion à Metz, voire en région Lorraine, sont dans les critères d'accession au logement social. Hein, ce qui, évidemment, signifie qu'ils sont dans une... on va dire dans une situation financière qui ne permet pas toujours l'accession à la propriété. Par contre, ce que nous leur devons alors, et je vous invite à aller visiter à Borny, rue de Bourgogne, c'est effectivement du logement intermédiaire. Du logement intermédiaire, c'est quoi? C'est du logement où chaque famille a une entrée individuelle et où il y a des petites parcelles, effectivement, qui permettent aux enfants de jouer ou de... Voilà, alors... Les maisons avec piscine, on ne doit pas parler tout à fait des mêmes gens. Enfin, je suppose que vous parliez, Monsieur Thiel, de la proximité d'une piscine municipale.
Ouais, une piscine plastique.
Oui, une piscine en plastique. Concernant l'habitat indigne, c'est vrai que c'est un enjeu important. C'est un enjeu important pourquoi ? Parce que ça permet de réhabiliter dans les centres-villes un certain nombre de logements et de récupérer du logement conventionné, donc de retrouver effectivement une offre de logement social disséminée. Et c'est bien sûr vers ce type de stratégie que nous allons. Alors, sur Metz, il ne faut pas regarder que le coût de la mission, comment on appelle ça, de l'ouvreur à l'habitat, c'est aussi l'investissement de l'ANA, hein, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui sur Metz plus de 2 millions d'euros qui sont investis sur la centaine de logements qui sont en train d'être réhabilités. Voilà, Monsieur le maire, sur quoi je voulais répondre.
Merci. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour l'importance de ce débat qui le mérite puisqu'il s'agit d'un sujet essentiel. Et je voudrais, pour terminer, apporter quelques précisions, soit qui me sont personnelles, soit qui correspondent à la politique que la ville de Metz entend tenir en matière d'urbanisme. Alors, sans vouloir répondre aux uns et aux autres, je voudrais rassurer le docteur Jacques, je sais qu'il doit partir, je vais lui répondre tout de suite. Sur le fait que je serai opposé au jardin. Alors, d'abord, je vais vous dire, docteur, que je me suis battu pour sauver les jardins publics, et avec succès, puisque, effectivement, des gens ont essayé de supprimer des jardins publics à l'endroit où personne n'a de jardin privé, c'est le quartier Saint-Vincent, et peut-être, j'explique à tout le monde, j'explique que les espaces verts publics doivent être préservés et non pas bétonnés, comme on en avait l'intention, avec une cantine et un gymnase, alors que d'autres solutions pouvaient être trouvées. Parce que, en effet, en ville, l'essentiel est de préserver des espaces publics, on appelle ça les coulées vertes. Et ça se pratique dans les théories urbanistiques modernes, on fait des coulées vertes et on essaye, autour des coulées vertes, de densifier les villes parce que il faut effectivement éviter la généralisation de l'étalement urbain. La France consomme actuellement un département, l'équivalent d'un département de terrain agricole tous les 10 ans. Et il est indispensable de maîtriser l'étalement urbain qui aboutit à des consommations de carburant énormes. Et donc, nous avons cette politique. Oui, dans les espaces que nous urbanisons, je vais prendre 2 exemples, les Coteaux de la Seille ou le Sansonnet, nous ferons des maisons individuelles avec des petits jardins, on appelle ça des maisons en bande, elles sont l'une à côté de l'autre, des maisons de ville, c'est très faisable, ça a été décrit très bien, on a des exemples à Borny par exemple, et nous ferons également des petits immeubles. Je le dis parce que dans ce quartier-là, devant les ponts, que je connais aussi très bien, il y a énormément de maisons individuelles, et pratiquement pas de jardin public. Et la réalité, c'est que là, on fera un jardin de 3 hectares et demi qui permettra un lieu de rencontre et une coulée verte pour l'ensemble des gens du quartier qui veulent se distraire. Et donc, l'étalement urbain n'est pas notre solution. Par contre, la réalisation, j'entends parler d'endroits où on pourrait faire des maisons individuelles. J'ai pensé, et j'ai entendu que le... Mais j'ai cru rêver. Quand on connaît les Hautes-Queuleux, voilà le prototype d'architecture et d'organisation urbaine qu'on aurait pu faire différemment, permettez-moi de vous le dire. Mais je n'ai pas insisté, il ne faudrait pas être trop méchant. Maintenant, pour le reste des constructions, oui, nous avons énormément de friches urbaines. Nous avons énormément de friches urbaines et c'est notre travail de les réhabiliter. Alors, on peut en citer quelques-unes, mais ce sont des friches militaires, ce sont des friches industrielles comme l'usine des tabacs, ce sont la caserne des Vallières, l'hôpital des friches hospitalières, des friches ferroviaires. C'est le programme de la ZAC de l'amphithéâtre. Nous sommes en train de reconstruire la ville sur elle-même. Je vous signale que, par exemple, à l'usine des tabacs, ce sera, parce qu'il y avait avant une organisation militaire installée sur place, ce sera la troisième construction différente sur le même site. Voilà le lot des villes. Et nous sommes une ville qui est en train d'apprendre, comme d'autres villes en Angleterre, en Allemagne, dans des pays plus denses que les nôtres, apprendre à refaire la ville sur elle-même et à la rendre vivable et urbaine tout en étant humaine. S'agissant de points qui m'ont touché, je voudrais parler des jeunes ménages. C'est extrêmement intéressant. Effectivement, j'ai fait ces derniers jours une rencontre très intéressante. C'était quelqu'un qui me disait, il m'appelle Dominique, très flatté, « Dominique, on vient de quitter Metz, non pas parce que c'était trop d'impôts, parce que les loyers étaient trop chers. Mais je voudrais avoir une place en crèche pour mon bébé. Je voudrais avoir une place en crèche pour mon bébé, parce que j'ai quitté Metz, parce que les loyers étaient trop chers, mais on a besoin d'une crèche. Or, là où je suis, il n'y a pas de crèche. Les loyers sont moins chers, mais il n'y a pas de crèche. » Je vais vous expliquer. Il faut de la cohérence dans la ville. Thierry Jean a expliqué, à juste titre, que nous étions à Metz Métropole en train de mutualiser les principaux services. Il y a effectivement des gens qui viennent de l'extérieur et qui vont à l'Arsenal aux frais des gens de Bellecroix et de Borny qui n'y vont pas forcément beaucoup. Eh bien, pour moi, c'est un problème d'équité et de justice. Je considère que la fiscalité, quand on n'en veut pas, il n'est pas normal de profiter des conséquences. Or, on trouve beaucoup de gens qui trouvent normal d'aller à la piscine à Metz ou à Montigny. Dans ce cas-là, nous sommes deux. Et puis, qui trouvent normal de ne pas payer d'impôts parce que, finalement, ce sont les médecins qui payent les impôts des piscines. Et mon ambition est progressivement, et je le dis à mon opposition, de mutualiser l'ensemble des services qui sont mutualisés dans les usages, que ce soit les très grandes médiathèques, les grands équipements culturels, les piscines, et cela a été fait dans de nombreuses intercommunalités. Et je n'aime pas cette bataille qui consiste à dire « chez nous, les impôts sont moins chers ». J'ai même vu d'ailleurs quelqu'un qui, si jamais il y avait une démission, ce qu'à Dieu ne plaise, sur ces bancs-là, arriverait au conseil municipal et se vantait, parce qu'il est dans la promotion immobilière, se vantait de faire déménager des entreprises de Metz à l'endroit où il construit des immeubles en disant « chez moi, c'est moins cher, vous aurez les mêmes services à Metz et vous venez chez moi ». Il faut bien comprendre que quand nous sommes dans un espace urbain, tout le monde profite de tout, tous les services sont partagés et la réforme des intercommunalités qui est en route, et Madame Zimmermann, il faut m'écouter, la réforme des collectivités locales qui est en route, et oui, parce que vous avez fait une conférence de presse à Peltre, vous avez bien le droit d'habiter Peltre, mais... Madame, vous permettez, je parle. Je vous ai lu à une réunion à Peltre, expliquant qu'il ne fallait pas toucher, aux intercommunalités. Je prétends que quand on vit dans un même espace urbain, on doit en assumer à la fois les avantages, c'est vrai, mais en même temps, la fiscalité. Alors, Madame, permettez-moi de terminer. Vous m'avez envoyé votre communiqué, vous l'avez envoyé à tout le monde. Alors je l'ai lu. Vous m'avez envoyé votre communiqué défendant l'intérêt. Mais j'ai pas dit que vous aviez pas le droit. Je vous cite. Madame, madame, permettez-moi de terminer. Vous m'avez envoyé personnellement sur mon portable et je vous ai lu avec intérêt une défense de l'intercommunalité de Mézières en indiquant que vous faisiez une réunion à Peltre. Vous avez parfaitement le droit, mais j'ai parfaitement le droit de vous critiquer sur vos écrits. Et je le fais. Je le fais. Je considère que on a le droit de faire des réunions à Peltre qui n'est pas dans l'intercommunalité de Metz, bien sûr.
Mais elle va avoir lieu. Elle va avoir... Est-ce qu'elle va
ben
avoir
oui.
lieu
et alors elle va avoir lieu. Vous avez parfaitement le droit de faire des réunions et vous avez parfaitement le droit d'expliquer que chaque intercommunalité doit rester comme elle est. Je vous ai lu.
Oh, c'est lamentable. Ça, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable.
Et je terminerai en disant que les...
C'est lamentable.
Les initiatives qui consistent à opposer les uns aux autres, les habitants d'une même agglomération, en expliquant que à tel niveau d'intercommunalité, on peut avoir les bénéfices d'autres citoyens qui payent les services principaux, les grands équipements culturels, les piscines, les transports en commun, c'est une façon de ne pas servir la démocratie. Je suis ici en responsabilité. C'est pour ça que je vous ai donné la lettre que j'ai écrite au préfet. Oui, nous avons une opportunité de mettre de l'ordre dans ces stratégies qui sont parfois appuyées par certains élus, je le répète, et qui consistent à dire qu'on peut développer des stratégies qui permettent de bénéficier des services payés par les uns sans en assumer les responsabilités. Je terminerai avec un petit coup de chapeau à Madame Quillot. Permettez-moi de vous le dire, Madame Quillot, qui a soulevé un certain... Parfaitement, j'ai remarqué qu'elle était restée tout à l'heure. Et qui a soulevé un certain nombre de problèmes d'une grande finesse et d'une grande profondeur. Voilà. Et maintenant, je mets au vote. Qui soutient le programme de PLH qui nous est proposé par Metz Métropole? Eh bien, c'est bien. Avis contraire? Il n'y en a pas. Eh bien, c'est bien. À l'unanimité, je nous félicite. Madame, je ne suis pas agressif du tout.